Et allez, on remet le couvert. Mais pour l'actu locale,
on se met à découvert.
Bienvenue dans les matinales de Barthas.
Le lundi et le mercredi à partir de 8h30. Des éditos,
des reportages, des interviews
et des chroniques.
Et quelquefois des rediffs.
Ouais.
Les matinales de Radio Barthas
sur le 107 FM.
Possibilité de tout, là, oui. Allez, bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur Radio Barthas, bienvenue sur le 107, nous sommes le mercredi 21 février, il est 8h30, avec moi Léo est à la technique, salut Léo.
Salut Ben.
Deux matinales de suite, ça va?
Ça va devenir une habitude.
Ouais, je crois. C'est vrai, je suis bien content que tu sois là. Au programme de cette matinale, nous sommes avec Louise Donizo, bonjour.
Bonjour Ben.
Tu travailles pour le PETR Sud-Lozère en tant que chargé de mission agriculture et tu es accompagné de Benjamin Fouilleron, bonjour Benjamin.
Bonjour.
Ben, tu es éleveurs ovins viande du côté de Montlezon, c'est bien ça?
C'est ça.
Ensemble, on va parler de ce beau projet qui n'a jamais été aussi près de voir le jour, mais qui est quand même encore un peu loin, l'abattoir mobile dont on parle depuis quelques années maintenant. On parle de ça juste après l'édito et en deuxième partie d'émission, la suite du reportage de Jacqueline sur le Floracopoli, ce sera tout à l'heure. Il y aura de la musique comme d'hab. Aujourd'hui, j'ai choisi un groupe qui s'appelle Walk of the Earth, un excellent groupe de reprises. C'est assez hallucinant. On y va, on commence par l'édito. Vous êtes bien sûr Barthas.
On peut être en désaccord. Mais enfin, vu le ramassis de saloperies que je vous ai dégoté là...
Ce n'est que l'édito des Barthas. Et aujourd'hui, en guise d'édito, je vous propose la réponse de la vice-présidente de la délégation aux droits des femmes à l'Assemblée nationale, la députée NUPS, Marie-Charlotte Guérin. Dans un premier temps, vous allez entendre la proposition d'un député d'extrême droite pour répondre aux violences faites aux femmes, puis l'excellente réponse de Marie-Charlotte Guérin. Attention, au début, ça pique. La réponse est parfaite.
Quand une femme est victime de violences conjugales, vers qui elle va se tourner? Elle va se tourner vers une voisine et peut-être vers un médiateur. Et ce médiateur va la conseiller.
Je suis extrêmement choquée par cet amendement. Donc, rappel, hein, cet amendement, il dit qu'un médiateur social est proposé à toute personne victime de violences conjugales. Mais ce qui est gravissime, c'est que dans l'exposé des motifs, on nous dit que finalement, proposer un médiateur social à une personne victime de violences conjugales, ça pourrait améliorer le processus de résolution des conflits. Mais est-ce que toute personne sérieuse... Et il n'y en a pas au Rassemblement National qui a travaillé sur la question des violences conjugales, peut apparenter les violences conjugales à un conflit. Il faut remettre les choses à l'endroit. Un conflit, c'est quand on a un désaccord. Mais les violences conjugales, ça n'est pas un conflit. Ça a été dit avant, c'est un crime. Et c'est la justice qui s'en occupe. Alors là, on suggérerait avec cet amendement que chacun réglerait les petites choses entre soi, avec un médiateur social, etc. Mais non, ça n'existe pas. Ça n'est pas le rôle du médiateur social. Et il est fondamental de rappeler que lutter contre les violences faites aux femmes, c'est aussi agir sur la prévention en amont, c'est agir sur les inégalités, et c'est agir sur les sanctions aussi. Et donc un crime, ça ne se résout pas avec un médiateur social. Je suis désolée, c'est une incompétence crasse.
Et voilà, CQFD, rappelons tout de même qu'en 2022, les services de l'État ont rapporté 244 000 victimes de violences conjugales et le collectif Féminicide a recensé 102 victimes tuées par leurs compagnons ou par leur ex en 2023. Alors effectivement, non, un médiateur social, ce n'est pas et ce ne sera jamais la réponse à ces tragédies.
Whatever the reason, you do it for me. Oh, what?
De retour en plateau avec Benjamin, éleveur ovin, et Louise du PETR. On va parler de ce projet qui est l'abattoir mobile. Mais évidemment, avant toute chose, Benjamin, il y a eu un mouvement il y a quelques temps qui continue ou qu'on ne sait pas trop où on en est. Quel est ton regard sur la situation actuelle ?
Alors, c'est vrai qu'on ne sait pas trop où on en est. Moi, j'ai le sentiment en fait qu'il y a un espèce d'amalgame qui est fait entre tous les agriculteurs aujourd'hui, comme si c'était... une grande famille unie et que tous avaient les mêmes pratiques, ce qui n'est pas du tout le cas. On a des systèmes qui sont complètement différents d'une région à l'autre. Dans ce cadre, c'est difficile d'avoir des revendications communes et lisibles pour les citoyens d'une manière générale, je trouve. Après, voilà, les concessions qui ont été faites par le gouvernement aujourd'hui, à mon avis, elles vont vraiment à l'encontre du bon sens.
Et des enjeux de l'avenir, là, justement.
Exactement, ouais, des enjeux actuels, notamment liés au changement climatique. Donc voilà, pour moi, c'est un recul, absolument pas un progrès, donc je suis assez déçu, voilà.
Bien, en tout cas, aujourd'hui, nous sommes surtout ici pour un projet qui a, oula, au moins 7 ans, je dirais, c'est à peu près ça.
On peut dire un peu moins, peut-être, ici, là.
Six ans. L'abattoir mobile, on va rentrer dans les détails, évidemment, et parler de la cagnotte que vous avez mise en place. Vous êtes presque à l'objectif de 20 000 euros, mais il n'y en a pas d'objectif, parce qu'au plus il y en a, et au mieux c'est. Bravo, en tout cas, pour cette belle campagne. Commençons par le début et parlons de cette association, la SLAC, Structure Locale d'Abattage Coopératif. Vous êtes une vingtaine d'éleveurs, éleveuses à en faire partie. C'est quoi les objectifs de cet asso, Benjamin ?
Alors, je reviens sur l'objectif de la cagnotte participative. Il y a bien un objectif qui est à 30 000, pas à 20 000. Après, on acceptera sans problème au-delà de 30 000. Donc, cette association, la SLAC, donc Structure Locale d'Abattage Coopératif, on l'a montée en 2019. L'idée, là, c'était de formaliser vraiment la constitution du groupe d'éleveurs. On était un noyau dur à travailler déjà depuis plusieurs années et on voulait formaliser la structuration du groupe. Et puis avoir une asso, ça nous permettait d'avoir une interface aussi pour aller discuter avec les élus, avec d'autres partenaires. C'était ça, hein, l'enjeu pour nous. Et puis montrer que cette asso, c'était une structure de transition entre... finalement la démarche au début, le projet, l'idée et au final la structure qui va être exploitante de l'abattoir qui peut pas être une asso. Donc voilà.
Alors justement aujourd'hui à l'heure où on parle, quelles sont les solutions pour vous pour abattre vos bêtes et quels sont les inconvénients que cela comprend ?
Alors les solutions justement ce ne sont pas des solutions de proximité. c'est un peu ça le problème, c'est-à-dire que concrètement, on est un peu dans le vide, enfin dans un espèce de désert en termes de structure d'abattage autour des Cévennes. Il y a deux principaux abattoirs qui sont utilisés d'une manière générale par les éleveurs cévenols, qui sont l'abattoir d'Alès et l'abattoir d'Entrenas. Donc quand on est au milieu, c'est au moins une heure vingt de route pour y aller. Sachant que quand on abat ces bêtes, on y va une première fois pour décharger des animaux vivants, donc un premier aller-retour, et on y retourne une deuxième fois pour récupérer les carcasses. Donc ça fait deux allers-retours. Après, on a affaire aussi à des structures qui sont quand même des structures industrielles, c'est-à-dire que il y a des volumes abattus et des cadences d'abattage qui correspondent pas à l'idée qu'on se faisait nous de l'abattage des bêtes. Et après, un point qui est très important, c'est que quand on n'est pas un professionnel de la viande, quand on n'est pas un grossiste ou une cheville, ce qu'on appelle une cheville, on n'est pas considéré par les abattoirs comme des professionnels. C'est-à-dire que nous, éleveurs, on amène nos bêtes, mais on est considéré comme des particuliers, parce qu'on a des volumes en fait qui sont ridicules par rapport à ce que vont faire des grossistes en viande ou des maquignons. Du coup, il y a cette relation-là qui est... Alors que dans notre métier, on est considéré comme des professionnels par rapport à ce qu'on fait, bah là, on arrive dans une structure qui nous regarde comme un particulier. Donc, c'est au niveau de la tarification, c'est différent. Et puis, au niveau de l'engagement qu'on peut avoir dans ces structures, de la place qu'on peut avoir en tant qu'éleveur, ça change tout. On est vraiment pas considéré, en fait.
Tu parles de coûts. Donc, pour toi, ça représente à peu près combien d'aller dans un abattoir comme ça?
En dehors des coûts de transport et du temps de travail, ça coûte en moyenne entre 1,20€ et 1,50€ du kilo carcasse rendu. En fait, la facturation, elle se fait là-dessus. C'est vraiment sur le kilo carcasse rendu.
Ça, c'est intéressant. On n'en sait pas beaucoup, en fait, sur ce monde-là. Qu'on se rende compte aujourd'hui, l'idée de l'abattoir, c'est, on comprend bien, d'avoir une meilleure éthique et de penser au bien-être animal, en fait, aussi.
Oui. Je complète juste par rapport à la question d'avant, parce qu'il me
Avec
semble
plaisir.
qu'il y a des choses importantes que j'ai pas dites ou que j'ai pas dit. Le fait qu'aujourd'hui, en fait, les structures d'abattage qu'on utilise, nous, je l'ai dit, à l'Aisse et Entrenasse, ce sont des structures qu'on dit multi-espèces, c'est-à-dire qu'elles accueillent des bovins, des porcs et des ovins et caprins. Et en fait, ces structures, elles font leur rentabilité sur le volume de carcasses rendues, puisqu'on a vu que la facturation, elle se faisait au kilo carcasse. Et du coup, aujourd'hui, ce qui fait la rentabilité de ces abattoirs, ce sont les bovins et, dans une moindre mesure, les porcs. Donc, les petits ruminants, pour eux, vu ce qu'ils représentent en termes de poids, au final, sont pas très intéressants. C'est vraiment pas ce qui fait la rentabilité de ces outils-là. Donc, c'est un deuxième point pour dire que nous, alors d'abord éleveurs et non pas grossistes, et puis ensuite éleveurs de petits ruminants et non pas de bovins, on est encore finalement moins considérés par ces structures-là parce qu'on ne les intéresse pas financièrement. Quoi. Mmh. Donc ça, c'est important pour poser le cadre. Après, j'insiste quand même là-dessus. Ce ne sont pas des structures qui travaillent mal. Voilà, moi, personnellement, j'ai jamais eu de problème avec ces abattoirs-là. Elles assurent un travail qui est un travail fait avec les moyens qu'elles se donnent. Quoi.
Allons-y, parlons des enjeux de l'abattoir mobile, justement. Donc, on comprend que, quelque part, il y a un enjeu économique. Ça, on voit à peu près, tu nous expliqueras tout à l'heure comment ça va se passer économiquement pour vous, mais aussi d'éthique.
Oui, évidemment, on reviendra sur les aspects économiques, mais oui, l'idée, c'est un pas de côté un peu par rapport au regard et au fonctionnement économique de l'abattoir. Après, en termes d'éthique, évidemment, nous, on pense vraiment au bien-être de nos animaux, c'est-à-dire que c'est délicat, hein, je trouve, de parler de bien-être animal quand on parle d'abattage. Mais on pourrait dire éviter au maximum le stress des animaux. C'est vraiment ça qui nous guide. Alors, on ne fait pas non plus tout pour nos animaux. On parle autant du bien-être des gens, des personnes qui vont y travailler, que des animaux. C'est ça quand même qui a guidé vraiment le projet de bout en bout. C'est avoir un outil dimensionné pour nous et pour nos bêtes, quoi, en gros. Donc, arrêter de transporter des animaux vivants et avoir un outil de travail qui est conforme à nos attentes en termes de rendu et en termes d'organisation. C'est-à-dire que vraiment, on va pouvoir travailler comme on le souhaite, à notre rythme, et faire les choses bien.
Mais en termes d'hygiène, de normes, ça doit être assez drastique. Je suppose qu'il va y avoir des contrôles à l'appel. Déjà, est-ce qu'il y a des expériences similaires qui existent en France ?
Ah oui, 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 c'est vrai que... Pardon. On a tendance à présenter notre projet comme la solution et l'unique solution dans le cadre de la cagnotte participative qu'on a lancée. Mais évidemment qu'on s'appuie sur des initiatives qui ont existé ou qui sont existantes. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'abattoirs qui sont menacés de fermeture à l'échelle nationale. Il y a des contextes très différents hein, d'un département, d'une région à l'autre. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais la plupart des structures qui sont menacées, alors elles sont soit reprises par un grand groupe industriel, soit il y a une mobilisation locale qui fait que les éleveurs reprennent l'outil. C'est ce qui s'est passé notamment au Vigan, où là on est sur un abattoir multi-espèces fixe, donc qui ne bouge pas, mais qui a été repris par les éleveurs et qui est aujourd'hui géré par les éleveurs. Et qui tourne très bien. Moi, j'ai amené des bêtes au Vigan et c'est un plaisir déjà dans les pratiques, dans l'accueil des animaux. Ça n'a rien à voir avec ce que j'ai vu ailleurs, quoi.
Et donc, justement, ici, comment ça se passait au niveau hygiène, normes pour voilà. L'abattoir mobile ?
Revenons à l'hygiène.
Revenons aux Cévennes et à l'hygiène.
Eh bien, ça va se passer comme partout ailleurs. C'est-à-dire qu'il y a un processus qui se fait avec les services de l'État, donc notamment la DDETCSPP, qui est en charge de toutes ces questions d'hygiène et des questions vétérinaires. Donc la procédure, c'est de remplir ce qu'on appelle un dossier d'agrément. Ce dossier d'agrément, il comporte plusieurs parties, mais il traite vraiment depuis l'accueil des animaux jusqu'à la sortie des carcasses. En fait, on se doit d'expliquer dans ce document comment on va fonctionner et ce qu'on met en œuvre, à la fois pour la protection des animaux et pour le respect des normes liées à l'hygiène. Donc on est en train de travailler depuis le début de l'année sur ce dossier d'agrément. Ce dossier d'agrément, une fois déposé, il va être examiné par les services de l'État, qui vont ou pas nous accorder qui vont donner d'abord un
avis favorable ou
un avis, voilà. Ouais. Et en fait, la validation de cet agrément se fera après, suite à une visite du site, une fois que tout sera en place. Donc nous, on a prévu d'abord de déposer ce dossier d'agrément pour faire acte, en fait, déposer, voilà, en fait, entamer le dialogue réel avec les services de l'État. Et ensuite, pouvoir finir la mise en place au niveau architectural, notamment de l'abattoir.
Concrètement, quel est l'outil dont vous disposez déjà aujourd'hui ? Je suppose qu'il y a une structure, entre guillemets, existante qui deviendra l'abattoir mobile.
Oui, alors... C'est un peu... On va prendre les choses par étapes. Donc nous, on a... En fait, on va faire l'abattage. L'idée, c'est qu'on arrête de transporter les animaux morts. Les animaux vivants, pardon. On arrête de transporter les animaux vivants. Donc, on va utiliser pour les premières étapes de l'abattage ce qu'on appelle un caisson d'abattage à la ferme. Ça, c'est une toute petite remorque qui va être tractée par une voiture et qui nous permettra d'aller dans les fermes. Une fois dans les fermes, en fait, donc on va faire l'étourdissement et la saignée des animaux, ce qui nous permettra ensuite de transporter ces animaux morts jusqu'à une chaîne d'abattage qui va permettre de finir le travail de dépouille. Du coup, nous, ce qu'on a acheté avec les éleveurs de l'association, c'est aussi une remorque, mais c'est une semi-remorque qui était équipée. On a acheté d'occasion, et cette remorque, elle était équipée pour l'abattage rituel, donc pour l'Aïd El Kébir. Cette remorque, les utilisateurs de cette remorque avaient obtenu des services de l'État un agrément temporaire, donc pour fonctionner juste dans le cadre de l'abattage rituel, donc à savoir 3 ou 4 jours par an, quoi. Nous, ce qu'on veut faire, et c'est l'objectif final de notamment de la cagnotte participative, c'est réaménager cet outil de manière à obtenir un agrément permanent. On en a parlé, on a vu ce que ça implique, c'est un dossier très très lourd. Pour nous, aujourd'hui, ça nécessite un certain nombre de travaux pour avoir cet agrément et fonctionner finalement en routine sur un abattage hebdomadaire. Quoi.
Tout à fait clair, mais c'est un métier d'abattre aussi. Alors comment ça va se passer ? Est-ce que c'est vous-même qui allez le faire ou est-ce que quelqu'un sera là à l'année ? Est-ce que vous avez déjà pensé à ça ou alors est-ce que c'est seulement en projet ?
Alors là, ça touche justement à la question du modèle économique. Ce qu'il faut expliquer, en fait, c'est que la rentabilité des abattoirs aujourd'hui, hein, donc là, je parle des abattoirs de toute taille, c'est un équilibre fragile. Et souvent, la masse salariale de ces abattoirs, elle est assez importante. Et elle est constante. Et en fait... du coup, indépendamment du volume qui est abattu, cette masse salariale, elle reste comme une charge pour l'abattoir. Et c'est ce qui fait que souvent, on a des difficultés avec la rentabilité de ces structures-là. Nous, on a choisi justement d'avoir un modèle économique sans salariés, bah, de manière à pouvoir vraiment gérer l'outil comme on l'entend, appréhender les volumes vraiment avec prudence, et notamment au début, pour pouvoir y aller doucement et apprendre. Enfin, nous, on est éleveurs, on a quand même l'habitude de côtoyer les bêtes, mais plutôt des bêtes vivantes. Bon, on a tous déjà mis à mort des animaux dans nos fermes, pour nous. Mais évidemment qu'on n'a pas les gestes techniques d'un salarié d'abattoir qui l'est depuis 10 ans. Quoi. Donc, il y a un processus à mettre en œuvre et l'idée d'avoir cet outil-là, bah, de la même manière qu'on est tous plus ou moins là, dans le groupe utilisateurs d'ateliers de transformation, dans lesquels on a dû apprendre à travailler la viande, à faire de la découpe, à désosser, bah, là, c'est un peu le même processus, c'est-à-dire qu'on met en place notre outil et c'est ça qui va nous permettre aussi de nous former aux bons gestes.
C'est ça, donc il va y avoir des formations. Vous allez aller vous former dans des abattoirs déjà existants ou comment ça va se passer ?
Eh bien, c'est là qu'on va faire appel aux collègues éleveurs qui sont déjà en place sur des abattoirs, donc pas loin, notamment, je repense à l'abattoir du Vigan, hein, où là, ben, on a de la ressource, donc on va les inviter à venir visiter puis à nous apprendre.
Juste pour préciser, pour être... salarié dans un abattoir, enfin pour en tout cas abattre, ouais. Il suffit d'une formation d'une journée, donc de deux journées, pardon, que les éleveurs passeront. Voilà.
Qui seront, on parlera du rôle du PETR, mais vous allez les accompagner aussi là-dessus
Sûrement. Après, c'est une formation qui est éligible au VIVEA, si je ne me trompe pas.
Ouais.
Donc ça, voilà, ça sera les éleveurs qui pourront.
Mais c'est ça qui est un peu étonnant, c'est-à-dire que, en fait, il n'y a pas de formation technique obligatoire pour travailler en abattoir. On doit être formé à ce qu'on appelle la protection animale. Donc on est soit opérateur, soit responsable protection animale. Donc un jour pour opérateur, deux jours de formation pour responsable protection animale. Mais en fait, ça recouvre cette formation vraiment uniquement... ce qu'on appelle dans les abattoirs la partie vivante, c'est-à-dire là où on a des animaux vivants. On n'est pas du tout sur une formation qui traite de la suite de la chaîne et donc de l'aspect technique du travail.
Comme vous voulez.
Oui, et donc par rapport aux gestes, juste pour préciser, en octobre récemment, nous avons fait un voyage d'études dans un abattoir paysan dans la Drôme, donc où nous sommes partis avec plusieurs éleveurs et des élus aussi. Et donc là, bah, c'était déjà l'occasion d'échanger sur comment est-ce que eux, là-bas, ils ont monté leur projet, ils ont été soutenus aussi par la collectivité locale, etc. Et aussi, après, on a pu assister à une séance d'abattage sur une matinée. Et voilà, là, c'était... aussi l'occasion pour les éleveurs de voir les gestes pratiqués, de réfléchir à l'outil pour qu'il soit le plus opérationnel possible et confortable aussi pour eux. Donc voilà, il faudrait réitérer.
Parlons justement du modèle économique. Hein. On a déjà abordé pas mal de sujets à ce niveau-là, mais tu disais donc 1,20€, 1,50€ par kilo de carcasse, c'est ça ?
Alors ça, c'est dans les abattoirs.
Dans les abattoirs, ici, comment ça va se passer concrètement ?
Est-ce que vous combien on va payer, c'est ça que
c'est ça.
Bah alors, c'est difficile à dire aujourd'hui. Hein. Là, ce qui va faire le prix du kilo carcasse, ça va être les charges qu'on va avoir à assumer. On est aujourd'hui quand même encore sur un questionnement sur le montage financier du projet. Nous, en tant qu'éleveurs, on pousse la collectivité, les collectivités locales, notamment la communauté de communes des Cévennes au Mont-Lozère, à prendre en charge une partie du projet. Alors, je m'explique parce que c'est vrai que j'ai pas vraiment détaillé ça dans tes premières questions sur comment ça va fonctionner, qu'est-ce qui est mobile, pas mobile.
Oui.
D'ailleurs, c'est peut-être pas très clair. On pourra revenir là-dessus.
La question est prévue.
Mais en tout cas, pour fonctionner, notre abattoir, il a besoin d'un environnement qui permet ce fonctionnement. C'est-à-dire notre remorque, notre semi-remorque aujourd'hui, elle est à la zone artisanale de Sainte-Croix, de Sainte-Croix-Vallée-Française, accolée à l'atelier de découpe qui, lui, fonctionne. C'est un atelier qui est en CUMA, coopérative d'utilisation de matériel agricole. Et cette semi-remorque, donc, elle a besoin à minima d'un accès au réseau, donc à l'eau, à l'électricité, d'un système d'épuration des eaux. Et après, ce qu'on nous demande, notamment dans le cadre du dépôt de demande d'agrément, c'est aussi une partie bureau, notamment pour les services vétérinaires, des vestiaires et des chambres froides pour gérer à la fois nos produits, c'est-à-dire les carcasses, mais aussi les déchets qui sont collectés par un prestataire qui va faire ce qu'on appelle l'écarissage. Alors, pourquoi je disais ça ?
Modèle économique.
Oui, voilà. Donc, aujourd'hui, nous, on attend de la communauté de communes des Cévennes au Mont-Lozère qu'elle porte l'investissement sur ce site en fixe pour tout ce qui va permettre de faire fonctionner la remorque, donc. Notamment la partie bâtie, à savoir bureaux, vestiaires, chambres froides, etc.
Ça, c'est la partie fixe, mais si on parle justement de la partie mobile,
voilà.
Ça veut dire que là où le semi-remorque va devoir se déplacer, il faudra qu'il y ait aussi ces infrastructures-là ?
Oui, alors à court terme, alors là on rentre dans une autre question, mais à court terme, cette semi-remorque, elle ne va pas bouger.
Elle bougera pas.
Le seul élément mobile, ça va être ces fameux caissons d'abattage à la ferme. Là, on est sur de la mobilité vraiment... c'est-à-dire que pour chaque session d'abattage, il y aura ces caissons qui vont se déployer et revenir. Dans un premier temps, la semi-remorque, elle ne va pas bouger. Pourquoi ? D'abord parce que l'énergie du groupe, on l'a dit, on travaille depuis plusieurs années, elle est focalisée sur Sainte-Croix. On a envie de pouvoir démarrer, de mettre en fonctionnement notre outil. Et après, on verra quoi. Voilà. Déjà, c'est énormément de travail. Donc, on est prêt à aller remettre de l'énergie, aider un autre groupe d'éleveurs qui se constituera pour faire la même chose sur Florac. Mais pour l'instant, on a besoin de démarrer. Et en fait, on est obligé de considérer dans un premier temps que c'est comme un abattoir fixe, c'est-à-dire que cette semi-remorque, elle ne bouge pas, par rapport à cette question du dossier d'agrément. En fait, on sait que pour un site donné, c'est-à-dire caisson plus semi-remorque plus aire d'accueil aménagée qui va permettre de faire fonctionner, ça, c'est un dossier d'agrément. Si on déplace la semi-remorque et qu'on l'amène à Florac, il faut refaire une demande d'agrément et un dossier d'agrément. Donc, de toute façon, aux yeux des services de l'État, c'est considéré comme deux structures différentes. Donc, on va d'abord faire une première fois le travail et après, on verra.
Petit à petit, tu m'étonnes.
Voilà. Mais je reviens du coup à la question du modèle économique. J'expliquais que on attend la participation financière de la communauté de communes des Cévennes et Mont-Lozère. Et en fait, aujourd'hui, on a un projet qui ressemble à un projet public-privé. C'est-à-dire que nous, éleveurs, on va se monter en CUMA. On va vraiment gérer cette partie caisson plus semi-remorque. L'idée de la cagnotte, encore une fois, c'est de permettre de finir d'aménager cette semi-remorque, dont on va être propriétaire en tant qu'éleveur à travers la CUMA. Mais on va aussi, si tout se passe bien et si la collectivité nous suit jusqu'au bout, devoir payer un loyer pour les investissements qu'auront fait la communauté de communes. C'est pour ça que la visibilité aujourd'hui sur les charges qui vont peser sur la future structure exploitante de l'abattoir, elle n'est pas claire. Quoi. Donc c'est difficile de dire aujourd'hui on va payer 1,50€ du kilo de carcasse, clairement. Quoi. On va viser, évidemment, d'être en dessous des 2€. Mais on est tous prêts, là, les éleveurs du groupe, on est tous prêts au départ à payer un peu plus. De le faire à notre sauce, quoi. Finalement, voilà, c'est aussi...
Louise.
Et après aussi, ça évoluera au fur et à mesure. Voilà, il y aura une première année où il faudra se roder, il y aura un peu moins de volume. Et comme disait Benjamin, ça, tout dépend du volume. Donc plus il y a de volume, et moins au kilo carcasse, ça coûtera.
Ouais. On comprend en tout cas la complexité de mettre en place un tel projet. Et pourquoi ça a pris autant de temps, entre guillemets, mais finalement 6 ans par rapport à tout ce qu'il y a à faire, ça va, il y a pire. Le PETR a accompagné ce projet. De quelle manière? Comment ça s'est passé concrètement pour toi, pour le PETR en tout cas.
Du coup, je fais un petit rappel du PETR, parce que ce n'est pas toujours clair pour tous et toutes. C'est un syndicat mixte qui regroupe les deux communautés de communes du Sud-Lozère, des Cévennes au Mont-Lozère et Gorges Côte-Cévennes. Et donc, on est une structure de développement local. Et entre autres, il y a une mission agriculture qui est menée au sein du PETR depuis 3 ans. Donc l'objectif, c'est vraiment de réfléchir. On est deux petites communautés de communes. Hein. Il y a 12 000 habitants sur ce territoire. Donc l'idée, c'est vraiment de réfléchir à un développement à cette échelle-là, qui soit plus pertinent. Et donc le PETR a décidé d'entamer une réflexion sur le développement agricole local depuis 2021. Et donc moi, je suis chargée de mission agriculture au PETR, et l'objectif, c'était le développement des circuits courts et de proximité. Donc il y a une partie qui est sur l'approvisionnement en produits locaux dans la restauration collective, une partie sur le foncier agricole, et une partie qui était le développement des outils structurants du territoire. Donc on voit bien que sur le territoire, il y a actuellement de nombreux outils de transformation, que ce soit de découpe, de transformation de viande, mais aussi végétaux, sur la châtaigne, etc. Et que c'est vraiment des outils qui permettent aux agriculteurs d'avoir une certaine autonomie, en fait, sur leur ferme, et de développer les circuits courts. Donc en fait, les éleveurs du projet d'abattoir mobile ont sollicité le PETR pour un accompagnement, en fait, sur ce projet. Donc là, l'objectif, c'était vraiment de les accompagner sur la méthodologie, sur tout ce qu'il y avait à faire d'un point de vue architectural, éthologique, donc sur le bien-être animal, d'un point de vue sanitaire, réglementaire, et surtout, comme quand même le PETR, c'est une collectivité locale, et donc le conseil syndical est composé d'élus, de faire le lien avec les élus locaux là-dessus. Donc le PETR, il a porté une étude technico-économique de faisabilité en 2022-2023. Donc l'objectif, c'était de travailler en fait on avait recensé plusieurs manques pour faire avancer le projet. Donc en fait, cette étude, elle nous a permis de travailler avec des architectes, avec une éthologue. On a pu aussi réfléchir à la structuration juridique, au modèle économique, avec des prestataires. Et on a aussi été accompagné par Jacques Alverne, qui est un consultant en abattage alternatif, qui suit de nombreux groupes au niveau national qui ont des projets similaires. Mmh. Et du coup, qui a une vision d'ensemble.
Et de l'expérience.
De l'expérience, qui est ancien directeur d'abattoir, lui-même éleveur. Donc voilà, c'était vraiment un apport riche. Le PETR a porté et financé cette étude avec aussi d'autres partenaires. Hein. On a réussi à avoir des fonds leaders et un cofinancement du département qui soutient aussi ce projet. Et donc la semaine dernière, lundi dernier, on a fait la restitution de cette étude. Et donc là, vraiment, l'objectif, c'était de montrer tout ce qu'on avait pu faire jusque-là, les avancées, et de dire maintenant, voilà, on a un budget d'investissement, un budget de fonctionnement qui sont encore prévisionnels, mais qui quand même se sont bien affinés au fur et à mesure, et de voir est-ce que les collectivités locales pourrait se tenir. Donc ça a répondu favorablement. Après, il faut que ça passe dans les instances, en conseil communautaire, etc., que ça soit voté. Mais a priori, il y a quand même un gros soutien des collectivités locales.
Donc c'est génial de savoir que les élus s'intéressent et ont pris en considération ces questions-là.
Mmh.
C'est quand même une bonne nouvelle.
C'est une bonne nouvelle. Ouais. Après, voilà, le projet, il a été porté à l'origine par le PETR, donc qui englobe les deux communautés de communes. Dans l'idée, en fait, quand même aussi à l'origine du projet, c'était que cette semi-remorque, elle soit attelée à plusieurs ateliers de transformation sur le territoire, parce que les éleveurs aussi, ils étaient répartis. C'était pas forcément que centré sur la vallée française. Il y en avait qui étaient intéressés autour de Florac, notamment. Et donc, on a essayé de travailler pour ceux qui font la transformation actuellement au CFPPA, voilà, de voir si la remorque, elle pourrait pas stationner dans le coin. On n'a pas trouvé de foncier. Voilà, il y a eu plusieurs difficultés sur Florac là-dessus.
Il n'y a plus de place sur le parking.
Voilà.
C'est un peu compliqué à Florac. Hein.
Et donc, en fait, là, l'objectif, c'était quand même de... vu l'ampleur du projet, de se dire et qu'il y a quand même un noyau dur qui se concentre plus autour de Sainte-Croix-Vallée-Française, de lancer le projet là-bas. Et ensuite, si des éleveurs d'un autre secteur des Cévennes veulent s'en emparer, ce sera possible. Donc là, voilà, il y a quand même plus un soutien actuellement de la communauté de communes des Cévennes au Mont-Lozère, qui a déjà beaucoup investi d'ailleurs sur des ateliers de transformation depuis des années.
Ouais, on peut pas dire qu'il y a eu un engouement fort de la part des élus de Florac pour le projet, hein. Clairement.
Au moins c'est dit, on recevra Madame le maire ici, on en parlera avec elle pour voir où les bas ont blessé peut-être, hein. On est là pour ça. Justement, on va dire aussi un mot, alors tu n'y travailles pas, mais tu travailles en collaboration aussi avec le CIVAM, et donc Betty, hein, qui est aussi dans ce projet, quel a été son rôle à Betty et au CIVAM, ouais, en général?
Et ben, du coup, il y a une antenne de la Fédération des CIVAM d'Occitanie à Florac, où travaille Betty, et donc moi, au vu de mes missions, en fait, je manquais un petit peu de temps pour accompagner les éleveurs au vu de l'ampleur du projet. Voilà, comme j'ai aussi d'autres missions, comme je vous disais, sur la restauration collective et le foncier. Et donc, le CIVAM, voilà, c'est ce qui est une structure de développement aussi et d'accompagnement de projets agricoles de ce type-là. C'est mon très favorable pour accompagner. Donc Betty nous accompagne, je pense, depuis à peu près l'été dernier. Et donc on se divise le travail. Actuellement, elle a beaucoup accompagné les éleveurs sur notamment la rédaction de l'agrément sanitaire. Voilà, aussi sur la cagnotte, etc. Donc voilà, moi je fais plus l'interface, on va dire, avec les collectivités, l'étude, etc. Voilà. Ça permet d'avoir du relais.
Ce qu'il faut dire, ouais, c'est que les CIVAM, ils sont sur un programme depuis plusieurs années qui s'appelle Agriculture durable de moyenne montagne, ADMM. Donc ça, c'est un projet plutôt à l'échelle massif centrale. Et donc, ils sont tout à fait aptes et volontaires pour accompagner des groupes d'éleveurs ou des groupes d'agriculteurs, d'une manière générale, qui portent des projets sur ce territoire-là, dans ce cadre.
On a déjà eu le plaisir de recevoir ici le CIVAM, c'était Alice à l'époque, qui nous avait présenté la structure. Ça ne doit pas avoir changé beaucoup, c'est toujours écoutable sur radiobartas.net. Tu voulais ajouter quelque chose? Eh bien, on passe à la suite alors. Justement, vous commencez la description de votre projet sur la cagnotte en ligne par cette phrase d'Hippocrate, « Nous sommes ce que nous mangeons ». Donc là, on est vraiment sur l'idée d'un projet alimentaire plus éthique et en tout cas citoyen. C'est pour ça que d'impliquer les citoyens dans cette démarche-là, c'est important pour vous.
Ah ouais, pour nous, c'est super important. Ben, en fait, on n'est pas en cercle fermé, hein, quand on est éleveur, mais on reste quand même dans un territoire donné de manière assez sédentaire. Et en fait, on sait pas comment ce genre de projet peut être reçu aujourd'hui par les citoyens d'une manière générale. Alors, y a, de la même manière qu'il y a différents agriculteurs, il y a différents citoyens, il y a des courants de pensée différents, heureusement. Mmh. Mais en tout cas, nous, on recherche à travers ce projet une certaine adhésion, un soutien qui n'est pas seulement financier, mais on a besoin aujourd'hui de montrer, et notamment aussi de montrer à certains élus, que c'est un projet qui est globalement soutenu dans l'idée, parce que il est assez innovant, il amène une réflexion nouvelle sur la question de l'abattage. Et il est vraiment dans l'air du temps, dans la mesure où aujourd'hui, on commence à savoir quand même qu'il va falloir manger moins de viande, ou en tout cas, manger mieux, c'est-à-dire avoir une viande qui soit de meilleure qualité et qui ne soit pas produite de manière industrielle.
Je pense que c'est quelque chose qu'on n'a pas assez insisté sur ce fait, mais c'est que les éleveurs qui sont dans ce projet-là sont tous en circuit court, élèvent leurs bêtes, ont une conduite pastorale. Et donc, le seul maillon, en fait, pour l'instant, qu'ils ne maîtrisaient pas, c'était l'abattage. Mmh. Sinon, ils font vraiment tout de A à Z. Et aussi, ils ont une conduite pastorale, font pour certains transhume. Et donc, il y a aussi cette idée par rapport à d'autres enjeux, en fait, qu'on a sur le territoire, de maintien des milieux ouverts, de risque incendie, de voilà, aussi être... plus autonome sur les outils de transformation, d'abattage, etc. Mmh. Donc voilà, ça, c'est un projet qui recoupe de nombreux enjeux, qui, en tout cas, au PETR, c'est aussi ça qui a permis cet accompagnement.
C'est quand même courageux, Benjamin, d'entendre la bouche d'un éleveur. Il faut être conscient qu'on va devoir manger moins de viande. Mais ça te fait pas flipper pour l'avenir, quand même, en te disant, bon...
Bah pas du tout, parce que moi je suis pas dans une logique productiviste, donc non, je pense que potentiellement tous les éleveurs en place peuvent se maintenir à l'échelle de la France si on questionne les quantités produites et leur destination surtout, enfin voilà, on peut questionner aujourd'hui l'opportunité, surtout la pertinence de certaines filières d'exportation, notamment. Mais je reviens sur cette question de la qualité, parce qu'elle est très importante pour nous. On est sur des petites structures. Voilà, Louise l'a dit, en conduite pastorale, donc on est sur des systèmes archi-extensifs. Et en fait, avec des faibles effectifs, des races locales rustiques qui sont peu prolifiques, c'est-à-dire que au mieux en sortie, enfin, bon, je vais parler de moi, hein, au mieux en sortie d'agnelage, moi j'ai un agneau par mère, quoi. Donc je suis pas sur une prolificité folle. Donc j'ai besoin de valoriser mes produits, sinon je m'en sors pas économiquement. Et finalement, aujourd'hui, dans ce qu'on appelle l'aval de la filière, c'est-à-dire la partie production, commercialisation, ben, le fait de passer par un abattoir qui soit un prestataire de service extérieur dans lequel on ne participe pas et pour lequel on ne voit pas en fait comment les choses se déroulent, ça ne nous permettait pas d'avoir la maîtrise de la qualité du produit final. Ben, clairement, voilà, on transporte des animaux qui sont vivants aux pires périodes de l'année. Enfin, voilà, moi, je commence à abattre mes animaux en juillet, donc ça va être
fait chaud,
au juillet-septembre.
Ouais, c'est incroyable.
Voilà, 1h30 de bagnole en juillet, même si on se lève tôt, hein, honnêtement, ben, il fait vite chaud. C'est super stressant pour les animaux. Ce stress, aujourd'hui, c'est quand même assez connu qu'il va impacter la qualité de la viande. C'est connu depuis très longtemps, d'ailleurs, mais on sait que vraiment... ce qui va impacter la qualité de la viande, c'est le stress subi par les animaux juste avant le moment de l'abattage. Mmh. Ou pas. Et s'il n'y a pas de stress, on peut considérer que du coup, ben, y aura une qualité de la viande qui sera supérieure. Mmh. Donc il y a vraiment cet objectif-là de qualité en lien avec la nécessité pour nous de valoriser au mieux nos produits. Donc... on peut que adhérer à cette idée du mieux mais moins, quoi. Mm-hmm. Ou du moins mais mieux. Je sais pas dans quel sens.
Les deux fonctionnent, hein, c'est sûr. Mimosa avec deux i pour soutenir ce projet. On va refaire un petit résumé de à quoi va servir cette cagnotte.
Allez, résumé.
C'est pour toi.
Ah bon. Alors. Bah, je l'ai un peu dit. Donc le premier objectif, c'est de réaménager cette remorque, donc de passer d'un aménagement qui était fait pour un agrément temporaire et dérogatoire surtout, à un agrément permanent. Donc concrètement, ça veut dire que on va bricoler. Hein. On a besoin de revoir notre système de rail, de modifier certains moteurs dont la remorque est équipée aujourd'hui. Je ne vais pas rentrer dans les termes techniques parce que là, on va perdre tout le monde sinon. Mais le premier objectif, c'est ça, réaménager la remorque. Je l'ai dit, cette remorque, elle est installée sur le site de la CUMA des Hauts-Gardons, donc l'atelier de découpe de viande. Et l'idée, c'est aussi finalement de nourrir cet atelier au travers le projet d'abattage. C'est un atelier qui n'est pas utilisé tous les jours de l'année, donc il y a un peu de place. Et du coup, il y a forcément aussi l'envie de mutualiser et d'aménager en commun ce site-là. Donc, pour ça, on veut mettre en place une microstation d'épuration qui soit commun aux deux outils. Donc ça fait partie des enjeux de la cagnotte, c'est-à-dire que ça nous permettra aussi d'investir là-dedans. Et après, c'est sûr qu'on est sur des investissements qui, là, dépassent l'objectif des 30 000 euros. Mais en tout cas, on sait ce qu'on va faire à court terme. Et encore une fois, ça dépend aussi de l'investissement que portera la communauté de communes des Cévennes au Mont-Lozère.
Compliqué aujourd'hui pour vous de donner une date où ça sera ouvert, où ça sera utilisable? Ou alors vous êtes fixé un objectif?
Nous, notre objectif, c'est de pouvoir démarrer en 2025. Hein. On sait que 2024, ça va être compliqué. Encore une fois, le rythme des collectivités, quand on a une collectivité partenaire du projet, n'est pas forcément le même que le nôtre. Nous, on a envie d'aller plus vite. Mais d'une manière générale, pour les dossiers de subvention, la conjoncture n'est pas folle. Hein. Que ce soit pour des dossiers de subventions qui vont être demandés par la CUMA à la région, par exemple, ou par la collectivité, on sait que on va devoir être patient, quoi. Voilà. Mais on va tout faire, en tout cas, pour boucler nos dossiers en 2024 et être sûr de pouvoir démarrer en 2025.
Et c'est sûr que moi, là, je fais cet accompagnement... de la communauté de communes, mais aussi de contact avec les différents partenaires et financeurs potentiels, que ce soit le département, la région, l'État, le leader, une petite subvention du parc qui pourrait être possible aussi. Enfin voilà, et donc là c'est vraiment aller toquer à toutes les portes, remplir les dossiers, les délais, etc. Enfin c'est toujours des procédures assez longues. Après le rôle du PETR aussi là. C'était vraiment d'accompagner le groupe à la structuration du projet et après sa manière de fonctionner. Cependant, ça n'a pas du tout son rôle de porter l'investissement. Donc moi, après aussi, là, je vais donner un petit peu le bébé à la communauté de communes si on l'espère, elle vote favorablement au soutien de ce projet.
En tout cas, en attendant, auditeurs, auditrices, pour soutenir le projet, ça se passe sur la plateforme Mimosa avec deux i. Et vous tapez pour un outil d'abattage coopératif et paysan en Cévennes. Je mets le lien, tous les liens d'ailleurs, dans un instant sur notre site. Hein, le lien aussi du CIVAM et du PETR si vous voulez en savoir plus. Il reste à peu près 25 jours pour vous soutenir. Je crois que c'est à peu près ça. Cette émission est enregistrée, sachez-le, mais on doit être dans ces eaux-là. Merci vraiment à tous les deux.
Merci.
Oui, merci. Vous. Et moi, je veux juste rajouter qu'il y a aussi une chouette vidéo qui a été faite par Télédrail.
Nos amis.
Et qui permet vraiment d'avoir aussi une vision des modes d'élevage des éleveurs et d'autres explications du projet.
Louise pour le PETR, Sud Lozère, et Benjamin, éleveur au vin. Et je salue François, mon complice sur cette antenne de temps en temps, qui il y a quelques années faisait partie de l'Alodéar. Et c'était la première personne à m'en avoir parlé il y a quelques années maintenant. Et qui doit être bien content que ce projet voit tout doucement le jour. À très bientôt et vous revenez quand vous voulez. Hein. Une fois que le projet sera fait, la porte est toujours ouverte ici. Allez, on part au Floracopoli dans un instant. On écoute d'abord Crazy de Gnarls Barkley, reprise ici par Walk of the Earth. Vous êtes bien sur Barthas. Yeah, I was out of Et voilà, et c'est parti pour la deuxième partie du reportage de Jacqueline au Flora Acropoli sur la musique de quoi ? Ouais, Mario Kart. Elle déchire cette musique. Et vous allez voir que bah, elle a continué son petit tour, Jacqueline, et c'est super passionnant. Vivement la troisième édition. Flora Acropoli, c'est parti.
Je suis au comptoir extérieur de la salle des œuvres et je suis avec Johnny qui va me parler cuisine.
Alors avec Bruno, on s'est mis en snack avec les frites et les crêpes. Les crêpes qu'on avait super bien fait fonctionner l'année dernière avec une super équipe. Donc on est de retour et cette année on s'est dit qu'on allait faire des frites aussi. Donc on a testé les frites, on a eu les petits problèmes normaux de pétage de plomb à cause d'une friteuse, mais après on a pris le coup de main et on a fait fonctionner des frites avec de la frite originaire de Belgique, en tout cas la pomme de terre, produite ici. Donc coupée à la main, tout ça, et faite de façon traditionnelle comme une frite belge. Et les crêpes avec notre cuisinière derrière Delphine qui nous a préparé des super sauces chocolat et caramel beurre salé. Donc voilà. Et Delphine derrière en cuisine s'est occupée de toute la préparation nourriture pour les bénévoles. Donc plus de 40 personnes, 50 personnes le soir, avec des super repas, des menus. Et aujourd'hui elle recommence. Donc ça va être ça, on a eu une super équipe cette année.
Je confirme, c'était très bon hier soir. Et du coup, vous avez eu plein de monde.
Du coup, on a eu du monde calmement jusqu'à 16h hier. À partir de 16h, on n'a pas arrêté. Mais quand même, ça a été un flux toute la journée. Avec un petit peu par-ci par-là, mais on a tout fait. Surtout qu'au final, on a tout ce qu'on a prévu, c'est parti. En buvette aussi, on a prévu. Tiens, hop, je vais sur ma cuisson. Pré-cuisson. Première pré-cuisson de frites.
D'accord. Ouais, c'est du sérieux, hein.
C'est pas prêt.
C'est du sérieux. Et ouais, c'est appétissant, hein. Oh. Eh ben, bon courage, Johnny. Et puis vraiment, merci pour cette bonne bouffe, hein, franchement.
Merci. À toi aussi.
Avec Delphine, Delphine qui est surbookée, qui n'arrête pas depuis vendredi. Je ne vais pas te déranger longtemps parce que je sais que ce n'est pas fini, mais juste un petit mot quand même sur cette édition.
Alors moi, du coup, je ne pourrais pas trop te parler de la partie jeu, mais en tout cas, voilà. Effectivement, moi j'étais plutôt en cuisine. On a popoté tout le week-end, on a fait diverses soupes et crêpes salées, sucrées, dans tous les sens. Donc on a bien bossé et puis a priori bon c'est bien, ça a été apprécié. Donc voilà. Bon là après on commence à être sur du temps plus calme, donc on commence à respirer un peu plus.
Mais hier c'était quand même un sacré rush.
Ah oui, hier soir, là, il y a eu beaucoup de monde le soir. C'est sûr qu'il y avait le Burger Quiz, le quiz musical aussi. Donc, il y a eu du monde. Mais bon, après, il y a eu des super bénévoles aussi sur tout le week-end. Donc, voilà, ça, c'est clair que ça a bien aidé.
Mais c'était du bon et du local.
Ah oui, on avait tout pris quasiment, là, vraiment, en local. Il y a grâce Biojour qui nous a bien supportés. Voilà, donc...
Ok, ouais. Je te laisse bosser parce que je sais que c'est pas fini. Et puis, merci pour cette nourriture hyper agréable. Alors, je suis au Florus avec Stéphane qui va tout vous dire.
Alors ici, dans la salle du Florus, c'est la salle consacrée aux jeux d'histoire, aux jeux à thème historique et aux jeux initiés experts. Donc les jeux d'histoire, c'est les jeux de simulation en fait historique, qui sont souvent militaires, mais pas toujours, qui peuvent être aussi politiques, institutionnels, et où on essaie de revivre une époque, et donc il y a un lien étroit entre la mécanique et la thématique. C'est-à-dire que la mécanique intègre les données économiques de l'époque, les stratégies, les comportements des leaders, etc. Et donc on essaie de vraiment revivre ce qui s'est passé à une certaine époque, éventuellement de changer le cours de l'histoire. Voilà, ça c'est les jeux d'histoire. Il y a aussi des jeux à thème historique où en fait l'histoire est un prétexte, c'est juste un univers, ensuite il y a une mécanique qu'on a plaquée dessus et on joue à ces jeux-là. Et ensuite il y a des thèmes, il y a aussi des jeux d'experts initiés qui sont sur des univers qui peuvent être fictifs. On a un grand jeu sur Game of Thrones, donc la grande série Trône de Fer. On a des jeux aussi sur l'univers de Dune, et puis des jeux sur des événements qui ne sont pas du tout historiques. Donc voilà un peu les types de jeux que vous allez pouvoir avoir. On a aussi des jeux de rôle qui ont lieu au Florus, qui ont été animés par Eddy et puis par Antoine. Là, il y en a un qui vient de se mettre en place. Là, aujourd'hui, on est dimanche, il est 13h. On en a eu un hier qui s'est terminé à 1h du matin à la salle du Florus. Il y avait aussi un Dune d'ailleurs qui s'est terminé très tard. Voilà. Il y a eu aussi bien sûr du jeu de Go. Hein, avec l'association d'Hispaniac et qui a eu pas mal de clients hier, c'est uniquement l'après-midi, donc hier ils ont eu pas mal de personnes qui sont venues. Je pense qu'il y aura aussi, ça a toujours du succès, hein, il y a toujours des fans du jeu de Go qui viennent. Donc voilà, si vous aimez les jeux, on va dire un peu de négociation et de confrontation, et les jeux qui sont un peu complexes et qui durent encore au minimum une heure et qui peuvent aller jusqu'à 2-3 heures. Hier on a fait une partie de double aveugle sur du wargame, c'est-à-dire que c'est un peu comme la bataille navale, il y a deux jeux de chaque côté d'un grand écran et il y a un arbitre qui donne ce que voit chaque joueur au joueur adverse. Et là, hier, ça a duré 4 heures. Donc l'arbitre était un peu fatigué à la fin, mon copain Jean-Marc, mais ça s'est très bien passé, les gens étaient très contents. Voilà.
Merci.
On tire d'abord les dés.
Je suis à la médiathèque.
Bouger la tour ou le sorcier.
Ok, c'est au choix. Okay. On n'est pas obligé de choisir avant.
D'accord.
Ok. Allez, vous essayez.
On est parti.
Allez, c'est parti. Il est marrant, c'est un jeu de, hein, de mémoire.
Je te laisse commencer. Ah, c'est moi.
Interdiction de soulever les toits.
Oui,
surtout.
Madame. Oui, madame. On se rattache.
C'est la grande règle, parce que les enfants, ils soulèvent les tours tout le temps. Tu n'aimes pas ce jeu?
Ah ouais.
Les tours ambulantes. C'est un jeu, là, ils jouent à deux. En vrai, c'est un jeu qui est vraiment rigolo à plusieurs. Parce que justement, il faut se rappeler où sont ces petits personnages. Et puis du coup, c'est ludique parce qu'on empile les tours. Et donc, on arrive vite avec des tours qui sont de 5 ou 6 éléments, avec des petits personnages qui sont cachés à chaque endroit. Et en général, au bout d'un moment, on ne sait plus où c'est parce que tout bouge tout le temps. Le donjon dans lequel on doit amener les personnages qu'on appelle les sorciers, il bouge tout le temps. Les tours bougent tout le temps. Donc voilà, ouais, c'est un jeu très ludique. C'est un jeu d'ambiance très ludique. Et de mémoire, pour les petits, c'est pas mal.
C'est ce que j'allais dire, à partir de quel âge tu proposes ça?
Moi, j'ai du mal avec les jeux, avec les âges, qui sont... Ouais. Après, ça donne une idée, en fait. Parce qu'en plus, suivant les éditeurs, là, j'y l'ai pas toujours. Je trouve ça assez... sur un avis personnel, je trouve ça assez subjectif. En général, les parents, ils savent les capacités de leur gamin. Bon, après, suivant les enfants, moi, je dirais... C'est marqué 8 ans, je crois, mais des 6 ans... un gamin qui faut être patient. En fait, c'est moi, je trouve la grande règle des jeux en général, c'est la patience. Donc, dès qu'un gamin il est capable d'être assez patient et de rester autour d'une table à bouger des pions, c'est bon. Donc, si le gamin il est patient à 5 ans, dès 5 ans.
Et puis, ça lui apprend la patience pour le coup.
Oui.
S'il n'est pas trop patient.
Bah, après, s'il est... Oui, alors après la patience, elle peut s'apprendre à tout âge. On n'est pas obligé de l'apprendre à 5 ans. On peut l'apprendre plus tard, c'est tôt. Si le gamin, il préfère courir dehors, bah autant qu'il court dehors. Hein. Mais pour les mêmes, là, il n'y a pas besoin de savoir lire. Donc, il suffit de savoir reconnaître les chiffres et de savoir compter jusqu'à 5. Donc, ça va, c'est gérable.
Même moi, je crois que j'y arriverai.
Oui, toi, tu y arriveras aussi.
Je suis au premier étage du foyer rural et je suis avec Tao qui est en train de s'affairer avec ses manettes parce qu'il va y avoir bientôt le tournoi de
Mario Kart, sur précisément Mario Kart 8 Deluxe sur Switch. C'est la version finale de Mario Kart 8, un jeu qui était sorti sur Wii. Et sur Switch, ils en ont fait une version améliorée, donc les développeurs de Mario Kart, donc Nintendo, ont fait une version améliorée sur Switch, avec plus de circuits, plus de personnages, plus de cartes, et avec quelques petites mécaniques en plus.
Et là, je vois, tu as donc 4 manettes, ça veut dire que tu peux accueillir que 4 personnes ?
C'est 4 par 4, voilà. C'est des rounds, si je puis dire, de 4 courses. Donc une course faisant entre 2 et 3 minutes, c'est des rounds de max 10 minutes en général. Et voilà, et ça fait... donc malheureusement, on n'a pas le temps de faire des huitièmes, des quarts et des demi. Malheureusement, on fait des huitièmes, puis directement les demi et la finale. Donc il y aura d'abord... donc il y a 32 participants là. Donc il y aura d'abord 8 courses de 4 joueurs. On prendra le premier de chaque course. Il en restera 8, donc on passera directement aux demi. Et là, ça fera 2 courses de 4 joueurs. Puis on prendra les 2 meilleurs de chaque équipe et il y aura la finale.
Enfants, adultes, ados,
un peu tout le monde. Voilà, comme l'année dernière, on n'a pas spécialement mis de règles à part ça. Même si on réfléchit l'année prochaine à peut-être mettre une limite d'âge pour pas qu'il est tout petit. Parce que il y a des tout petits qui viennent des fois et du coup ils galèrent un peu, donc ça c'est le problème, mais bon c'est pas grave évidemment, et puis voilà, et puis ça permet à tout le monde de tester au moins.
Merci beaucoup Jacqueline. L'intégralité du reportage sera en créneau libre la semaine prochaine. C'est la fin de cette matinale, il me reste à vous souhaiter une excellente journée ou soirée, puisque cette émission est rediffusée le jeudi à 17h. En tout cas, une bonne fin de semaine. Restez bien sur Barthes, on n'y est pas trop mal. À très vite. Ciao.